Oui, bonjour, Étienne de Paris. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'entrer en résistance. Alors, je résiste maintenant. Ça y est, c'est décidé. Je résiste. Je résiste. Je résiste. Mais je résiste à quoi déjà? Je sais plus. Enfin, peu importe. Je résiste. Je vais résister maintenant.
Salut à tous. Il y a quelques années, Florence Aubenas et Michel Benassayag ont sorti, il y a 2-3 ans, je crois, peut-être un peu moins, un livre qui s'appelait de mémoire « Résister, c'est créer ». Et à l'époque de la sortie du livre, il y a eu quelques émissions sur ce petit bouquin. Et à chaque fois, c'était Michel Benassayag qui était invité dans les émissions. Alors, on pouvait se demander pourquoi. C'est uniquement parce que Michel Benassayag avait été opposant dans son pays. Je sais pas si c'est l'Argentine ou le Chili, je m'en rappelle plus. Et toujours est-il qu'il avait souffert. Donc, on pouvait jouer également sur la notion d'émotion pour parler du livre. Et maintenant, Florence Aubenas, en tant que journaliste, elle n'est jamais passée sur France Inter, sauf que là, elle est passée. Alors, on met en avant sa position de journaliste, mais Florence Aubenas, si elle est passée sur les antennes de France Inter, c'est parce qu'elle a été otage, c'est parce qu'elle a souffert. Donc, on est toujours dans la notion de souffrance, d'émotion et de récupération quand même. Alors, un gros bisou à Florence Aubenas. On est content qu'elle ait retrouvé la liberté, qu'elle ait retrouvé ses proches, ses amis, ceux qu'elle aime, et qu'elle puisse se remettre à faire son boulot. Mais on n'est pas dupe non plus de la façon dont les gens orchestrent tout ça. Ciao, viva, portez-vous bien. Enfin, en attendant, nous, on est toujours tous les lundis et tous les mercredis devant la gare de Saint-Raphaël. On partage un repas à 19h avec les SDF parce qu'ils mangent aussi l'été. Allez, ciao, viva, portez-vous bien.
Salut, Pascal et Daniel. C'est Jeff des Montagnes du Valais. Enfin, d'en bas, quoi. Je suis pas resté de membre en écoutant le Coco Boer de mardi soir. C'est bien ces mecs qui ont toujours la niaque. Moi, je voulais dire qu'il y a des images qui ont défilé dans ma tête quand j'ai entendu la voix de Jacques Mesrine. Tu vois, un peu comme quand on enfonce une mouche dans une marmite de cahier, qu'on remue et t'as toujours le petit lait qui remonte à la surface. J'étais pas bien grand, moi, à l'époque, mais je m'en souviens. Par ici aussi, il y avait quelques figures emblématiques, des Jaco et des Pierrot, qui avaient poussé, voilà, ils se sont fait cuire dans les montagnes des alentours, et la plupart aujourd'hui, ils me regardent de bien haut sans doute, mais je les salue et je voulais pas qu'on les oublie. Merci et ciao à tous. Continuez encore longtemps comme ça.
Bonsoir, c'est Jacqueline Lembert de Marcenay. Alors là, moi, j'ai trouvé ce monsieur Boer extraordinaire, que de conviction, que cette fois encore, envie de se bagarrer, cet homme qui ne renie rien. Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer un type comme ça? Ça fait du bien en ce moment là, de rencontrer des gens qui n'ont rien perdu de leur morale après tout ce qu'il a vécu. Et ça m'étonne pas que les voyous qui nous gouvernent préfèrent le voir en prison qu'en liberté à ce gars-là. Bravo. Alors là, vraiment, c'est moi, je tire mon chapeau. C'est rare quand je fais ça. Mais bravo, il mérite du respect, un grand respect. Très bien, monsieur Boer. Merci.
Voilà les messages sur le répondeur de là-bas. J'y suis au 01 56 40 37 37. Je rappelle le bouquin de Charlie Boer qui était notre invité hier. C'est Fractures de vie aux éditions Agone et c'est effectivement un reportage et le premier reportage de notre Pascal Le Pascariello. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'un des charmes de la controverse entre les nonistes et les ouiouistes, c'est que nos passions démocratiques s'en sont trouvées mobilisées et ce qui nous a permis d'échapper à un certain nombre de sujets, routines de certains sujets. Et donc, voilà, en cela, cette controverse a été bénéfique. Mais cependant, il y a peut-être aussi un certain nombre de sujets qui sont passés sous silence ou en second plan. En tous les cas, ça a été un peu notre idée en revenant sur une journée très particulière, bien particulière, le 8 mars 2005. Qu'est-ce qui s'est passé ce 8 mars 2005? Eh bien, une manif de lycéens importante à travers toute la France et notamment à Paris qui a vu l'apparition d'un certain nombre de casseurs, je mets ce mot entre guillemets, et de violence, et ce qui a déclenché une autre polémique, toute une série de polémiques en chaîne sur lesquels nous avons eu, avec Olivia Gesbert, envie de revenir à tête reposée, autant que les têtes puissent se reposer par rapport à ces sujets qui relèvent, quand même, qu'on le veuille ou non, d'un thème récurrent et qui hante nos sociétés, un spectre qui hante nos sociétés, c'est le spectre du communautarisme. Alors on va revenir sur cette journée particulière, très particulière, aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour les pauvres, ceci est un message pour vous. 2,25. Oh, quelle épargne, 2,25. C'est vraiment trop élevé. Alors on va passer à 2%, hein, pour vous les pauvres. Ouais, la rémunération du livret de caisse d'épargne. Le caisse d'épargne du livret, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Non, bah parce que c'est vrai, vous les pauvres, là, si vous voulez vous enrichir, il faut être un peu plus dynamique. Allez, boursicoter, hein, votre SMIC, là, qui est vraiment trop élevé aussi, lui. Mais essayez de le jouer en bourse, vous gagnerez beaucoup plus. Allez, c'était un message de la commission de jouer en bourse.
Oui, bonjour, c'est Pierre de Limoges. Ouais, je voudrais réagir à un personnage qui est réapparu hier soir sur Antenne 2, Monsieur VGE. Alors, Monsieur VGE nous a appris, nous a confirmé qu'en fait, on avait très très mal voté, en fait, sur la Constitution européenne, et qu'il y en avait en fait toute une partie qui avait été votée non à ce gouvernement. Mais on n'a pas voté non au gouvernement, on a voté non à la Constitution européenne. Et en plus, il nous prend encore pour des imbéciles. Il nous a dit qu'il fallait pas, qu'on n'aurait jamais dû présenter la partie 3. Allez, Valérie, au revoir.
Salut, Daniel. Jean-Michel du Jura. Jeudi 16 juin, c'est la journée nationale pour que le non au référendum soit enfin pris en compte par nos élus. Venez nombreux manifester devant vos préfectures et sous-préfectures. Merci.
Bonjour. Dans le passé, même l'avenir était mieux. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert. Mardi 8 mars 2005.
Flight number 2, arriving from...
France Inter.
165. On a promis 200 000 selon les organisateurs. Aujourd'hui, pour réclamer le retrait du projet de loi Fillon sur l'école, il sera examiné par le Sénat la semaine prochaine. On a manifesté un peu partout en province, mais à Paris, la manifestation prévue de République à Denfert-Rochereau a tourné court. Les deux syndicats Fidel et Unel ont appelé à la dispersion du cortège, car de nombreux casseurs s'étaient infiltrés parmi les lycéens et ont été à l'origine de violences et de pillages, Fabienne Saint-Pès.
Il était vraiment temps que ça s'arrête, et puis les jeunes des services d'ordre en réalité n'en pouvaient plus, comme on les comprend. Ils ont tenté de maîtriser ce cortège jusqu'au bout. Il n'a été qu'incident dès le début, d'ailleurs très vite. Une centaine, une cinquantaine, peut-être même de jeunes perturbateurs se sont retrouvés devant le début de la manifestation dans cette sorte de no man's land qui sépare en fait le cortège des premiers CRS. Et puis ça a été le jeu du chat et la souris, course avec les services d'ordre musclés, parfois même de la CGT venus prêter main forte, course avec les policiers en civil qui étaient près de 200 moins dans cette manifestation. Les jeunes étaient parfaitement identifiables, on les a vus se battre parfois avec des jeunes, des vrais manifestants. On les a vus surtout voler des portables au-dessus de tout le monde, voler des habits, voler des sacs. Enfin, ça a été une espèce de racket permanent dans cette manifestation, des coups aussi entre jeunes manifestants et jeunes casseurs. Deux vitrines ont volé en éclats, boulevard du Temple, et plus grave, une journaliste d'une agence de presse américaine a été victime d'un traumatisme crânien. Elle a aussi perdu ses appareils. C'est
une vraiment journée dommage, particulière, on en a bien rendu compte sur France Inter. Et en effet, ce 8 mars 2005, déjà oublié par beaucoup, laissera sans doute des traces importantes dans les mémoires de ces lycéens qui manifestaient ce jour-là, et puis une mémoire ou une étape supplémentaire dans une polémique qui dure depuis plusieurs années maintenant, entre différents groupes, entre différentes communautés, entre différentes tendances d'intellectuels, d'animateurs, d'agitateurs de toutes sortes.
qui ont pris prétexte de ces des violences de cette journée selon trois axes bien connus de tous, qui l'un c'est de minimiser, l'autre dramatiser et le troisième manipuler. Alors avec Olivia, on a eu envie de revenir sur tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qu'on a dit ce jour-là? Qu'est-ce qu'on a dit sur ce jour-là? À tête reposée, quelques semaines, voire mois plus tard, on a voulu retrouver ceux qui ont été les acteurs, les témoins et j'oserais dire les penseurs de cette fameuse journée. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On le disait dans ce flash de France Inter, manif contre la loi Fillon sur l'école, quelques jours avant que la loi ne soit adoptée par l'Assemblée nationale. Et ce jour-là, ce 8 mars, des étudiants, des lycéens à travers toute la France manifestent dans 150 villes. Donc manifestation, mobilisation quand même importante. À Paris, ils sont 9000 et il y a, place de la République, des casseurs qui s'infiltrent, on l'a dit dans le flash, des casseurs qui s'infiltrent dans la manif. Alors, ce jour-là, on dira, oui, mais attention, il ne s'agit pas de violence classique, mais de violence massive. Sur les 9000 manifestants, on évalue à 1000 le nombre de casseurs. Et on décrit des visages ensanglantés, des filles traînées par les cheveux, des lycéens en pleine crise de nerfs, des bandes qui s'acharnent à coups de pied et de bâtons sur des jeunes, des scènes de cauchemar, des scènes de lynchage. On évoque évidemment l'image d'Orange Mécanique. On fustige les forces de l'ordre accusées, ces routiniers, de complicité passive afin de briser la mobilisation lycéenne. Et on commence à chaud à faire des lectures expresses de ce qui se passe. Alors il y a évidemment la lecture, on va dire, de classe, c'est-à-dire que ces casseurs sont des jeunes des banlieues défavorisées qui viennent casser du bourgeois, donc des prolétaires contre des bourgeois. D'autres nous expliquent que non, c'est pas des prolétaires, mais c'est le lumpen prolétariat, et on cite Karl Marx qui disait que ce lumpen prolétariat, c'est l'armée de réserve du capital. C'est Karl Marx lui-même qui le dit. Et armée de réserve du capital qui serait auxiliaire de choc des, et ça je cite certaines déclarations, auxiliaire de choc d'Hitler ou de Mussolini dans le passé. On voit que on y est allé fort dans tous les sens. Mais le plus fort aura sans doute été l'idée d'un racisme anti-blanc qui serait apparu violemment sur le pavé parisien autour de la place de la République ce 8 mars dernier. Et on va, surpris, estomaqué, voir apparaître un appel évoquant, fustigeant, condamnant, dénonçant des ratonnades anti-blancs. Cet appel, lancé par une association de jeunes sionistes de gauche, Hachomer Hatzair, et une radio communautaire juive, Radio Shalom, sera signé de personnalités, de personnages importants comme Alain Finkielkraut, Jacques Julliard, Bernard Kouchner, Pierre-André Taguieff ou Elie Chouraki. Donc des personnages de poids, des personnalités connues qui signeront cet appel condamnant, dénonçant des ratonnades anti-blancs dans les rues de Paris. Évidemment que un tel appel n'a pas manqué de provoquer à nouveau des réactions qui, à nouveau, en auront suscité d'autres. Tout ça, évidemment, à travers des colonnes et des tribunes de différents journaux. Et puis, bon, là-dessus arrivera le débat sur la Constitution qui fera passer au deuxième plan, voire même qui fera oublier ces polémiques. On a quand même eu envie de revenir un petit peu sur tout cela, je l'ai dit, à tête reposée et voir de quoi tout cela était parti et à partir de quoi les positions ont été prises, sur quel témoignage, sur quelle preuve et sur quelle analyse tout cela s'est construit. C'est jusqu'à 18h, c'est la basse suffisance.
La sonora alongside you, man, check ça.
You man, stop, flop, come on. Ce son qui résiste, ce son qui se défend, ce son qui persiste, c'est un charme militant. Écoute ce son qui t'a vu, ce son trop puissant. C'est la sauce qui nous présente, un son de survivant.
Prends le mic, évite-le, on me rapnaque. Au milieu de partout, et les chiens de Paki. Mec, protège Zaki, le peu que tu restes en avis. Ne sois personne de la vie, mais dis-moi, pourquoi l'on cesse de se lever? Pourquoi l'on voit que c'est ça le voix étouffé? Quoi qu'on n'a pas accès au bien ni au confort, on doit se contenter des miettes comme des médors. Mais dehors, les murs se voient que c'est le respect. Que le gagne pas un singe sous monnaie. Mais hey, l'argent te met devant, mais c'est pas une finalité. Car tôt ou tard, les barons finissent par t'attraper. Regarde-nous, risquer nos vies pour les petits. Alors que le fric n'est qu'un outil pour sauver une fourmis. Et n'est que le temps de prendre une décision, hein. Choisis ton corps bien foutant.
Le spectre des violences anti-blancs. C'est le titre d'un reportage dans le quotidien Le Monde, daté du 16 mars dernier, le spectre des violences anti-blancs. Spectre des violences anti-blancs, dans l'appel que j'ai évoqué tout à l'heure, deviendra ratonnade anti-blanc. Mais à quoi ressemble le spectre des violences anti-blancs ? Le reportage du quotidien Le Monde va servir effectivement à lancer cette polémique. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un reportage aussi talentueux que soit le reporter. Évidemment, un reportage, c'est jamais qu'un témoignage d'un témoin qui a plus ou moins l'œil, qui a plus ou moins de talent, mais ça reste évidemment largement subjectif. Néanmoins, à partir d'un des témoignages diffusés dans cet article du Monde, on va élaborer et échafauder une série de d'appels, une série d'analyses, une série de certitudes et toute une matière polémique. On a retrouvé avec Olivia l'un des témoins de ce qui s'est exprimé dans le quotidien Le Monde. Il s'appelle Luc Colpart. Luc Colpart est prof d'histoire et effectivement son témoignage figure dans ce reportage et vous allez voir qu'il a servi effectivement à nourrir l'idée d'un l'apparition d'un racisme anti-blanc, voire de ratonnade anti-blanc. Quelques semaines plus tard, donc, Olivia, nous retournons avec ce prof d'histoire sur les lieux de ces violences à Paris.
Alors, je m'appelle Luc Colpart, je suis professeur d'histoire dans un collège en Seine-Saint-Denis.
Alors là, on est sur la place de la République, en direction de Bastille, de Filles du Calvaire. C'était à peu près le parcours de la manifestation du 8 mars, hein, la manifestation lycéenne.
Exactement le parcours. Et elle a été dispersée à gare d'Austerlitz. Il y a eu des violences de jeunes qui s'infiltraient dans la manif et qui braquaient les jeunes qui manifestaient. Il y avait 10 000 personnes, je crois, si je me rappelle des chiffres.
10 000 personnes environ ?
Environ, oui. Ici, il y avait des CRS qui bloquaient l'entrée des petites rues.
Perpendiculaires.
Voilà, perpendiculaires. Quand on arrive à la rue des Filles du Calvaire, on commençait déjà à voir des vols de portables en particulier. Donc les jeunes qui passaient derrière d'autres jeunes qui téléphonaient et qui arrachaient le portable et partaient en courant. Ils étaient par petits groupes, entre 10 et 40, je dirais. Des élèves ou non, enfin des jeunes de 15-20 ans. Certains disent issus de la colonisation. Je ne sais pas comment les définir exactement.
Bon, la plupart étaient black ou beurre ou.
Une grande majorité de black. Au départ, je constatais surtout une démarche de pillage. Et ensuite, c'était une démarche de frapper. Mettre à terre et donner des coups de pied, des coups de poing. J'ai vu un manifestant se faire frapper la tête contre un rideau de fer. Oui, c'était vraiment excessivement violent. Et ils étaient à 5, 6, 7 sur une personne à le rouer de coups. Et quand je suis rentré dans le métro, il y avait également des jeunes agresseurs qui étaient dans le métro. Et les agresseurs ont insulté le lycéen qui s'était interposé en le traitant de suceur de blanc. Il est togolais, le lycéen en question.
Votre témoignage, vous parlez notamment, vous avez été interviewé une semaine après, je crois, par un journaliste du Monde, et vous parlez de propos racistes, hein, je crois, c'est raciste, ça qui avait été raciste, ouais. C'était le mot, de ces jeunes agresseurs face à ceux qui étaient agressés.
C'était dans le métro. Hein. Donc les jeunes qui disaient bon, aux lycéens dont je parlais tout à l'heure que c'était un suceur de blanc, et puis qu'il niquait l'État français, il niquait les manifestants, enfin il niquait tout le monde, quoi. Il n'avait rien à faire.
Et alors votre contribution, justement, ce témoignage, je l'ai retrouvé aussi sur un site, lui, xénophobe, par contre, sur le site Racisme Anti-Blanc.
Je trouve que c'est une récupération assez scandaleuse, d'autant que dans mon témoignage, la petite phrase d'analyse que je fais est de penser que c'est un retour de flamme de l'exclusion que la société française fait subir ces jeunes des quartiers défavorisés. Donc on reprend, bon c'est toujours la même chose, on reprend des phrases et des propos en omettant l'essentiel. D'ailleurs, ma pensée n'est absolument pas de penser qu'il y a un racisme généralisé dans les banlieues des Noirs contre les Blancs ou des Blancs contre les Noirs. Je pense que c'est déjà que c'est très minoritaire.
Quand un appel comme le manifeste qui a été signé par Finkielkraut, par Bernard Kouchner, par Elie Chouraki, notamment aussi par Radio Shalom, parle de ratonnade anti-blanc, ça vous paraît correspondre à ce qui s'est passé?
Si on parle de ça, ça voudrait dire que c'était organisé dans ce sens-là. Je pense que tenir des propos comme ça, en plus, c'est dangereux. De stigmatiser les communautés, de les dresser les unes contre les autres, je trouve ça assez dangereux. Il me semble pas avoir entendu quiconque, suite à cette manifestation, des témoignages que j'ai lus de lycéens, entendre le moindre propos antisémite dans cette manifestation. Faire le lien, c'est un petit peu... c'est une récupération très douteuse.
Une récupération douteuse, nous dit Luc Colpart, prof d'histoire et militant appartenant au syndicat Sud Éducation. Effectivement, dans la déclaration qu'il a faite, au témoignage qu'il avait diffusé sur Internet, il précisait bien qu'il voyait dans ces violences le produit fini, je le cite, de notre société fondée sur la violence économique et le racisme. C'est sans doute, dit-il, le retour de flamme de l'exclusion des jeunes des quartiers dits difficiles. Alors, il a dit un gros mot, hein, vous avez remarqué, ce prof d'histoire. Il a dit suceur de blanc. Enfin, il a cité ce qui s'était dit dans cette manif, il ne faut pas le répéter. Hein, suceur de blanc, c'est très très mal. N'empêche que ça a été prononcé par un jeune homme. Et le jeune homme, on l'a retrouvé. Enfin, plutôt, Olivia Gesbert l'a retrouvé. On va l'appeler Martin. Il est black, il est noir. Et c'est pour ça que les autres l'ont traité, l'ont engueulé en lui disant, t'es un suceur de blanc. Qui est ce suceur de blanc? On l'a rencontré à Noisy-le-Sec. Il a 17 ans. On l'appelle, je le disais, Martin.
On est dans un petit parc à Noisy-le-Sec, où tu habites. Toi, t'es à la coordination lycéenne. Hein.
Oui, plus ou moins, oui.
Très mobilisé contre la loi Fillon.
Voilà.
T'avais participé à cette manifestation, cette fameuse manifestation du 8 mars, pour son degré de violence. Mais alors, la suite de ça, c'est qu'après, toi, tu as pris le métro, et que là, t'as eu une mésaventure.
Alors, le métro, en fait, oui. Donc, le métro, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait aller donc à une AG à Jussieu. Ouais, à la fin de la manif, ouais. Donc, c'était dispersé. Donc, il y avait quelques-uns qui voulaient racketter un petit et tout. On s'y opposait, voilà. Donc, on s'y opposait. Donc, ça commence à gueuler.
C'était qui,
c'était moi, un ami, un autre ami. Puis, donc, voilà, il y avait un noir, il y avait un arabe, il y avait des blancs, il y avait, voilà. Et donc, ils m'ont dit, oui, machin, oui, qu'est-ce que tu te mêles de ça, machin, t'es un suceur de blanc, machin, parce que je voulais défendre le type. Et puis, donc, voilà, je me suis mangé cette insulte-là dans la figure. Et puis, voilà, ça fait pas forcément plaisir.
Suceur de blanc.
Ouais, ça veut dire collabo, en gros, quoi. Bah là j'étais bien parti pour lui péter la gueule aussi quand même, parce que ça m'a un petit peu énervé, hein, parce que voilà, si moi je dis pas, je suis pas raciste ni quoi que ce soit, mais bon, après, si on veut aider la cause des Noirs, c'est pas en tabassant des gens qu'on la sert, donc alors venant de ces gens là oui, ça m'a un petit peu énervé quand même.
C'est un peu l'insulte suprême ou pas, justement, parce que tu l'as traduit en mot de collabo?
Bah c'est l'insulte suprême, c'est l'insulte suprême, ça dépend de qui ça vient. Quand ça, si ça venait d'un blanc, bon, ça m'aurait énervé quand même, mais c'est pas pareil. Là, que ça vienne de noir, bon, voilà, ça m'énerve forcément. Et puis surtout que le fait que, déjà, moi, ça m'énerve vraiment, que les gens ils soient venus foutre la merde en manif, que ce soit que les noirs, que voilà, il y a toute cette haine. Enfin moi aussi j'ai une haine aussi du fait que ce soit toujours les gens, enfin toujours des noirs ou des arabes ou enfin des gens de petits quartiers comme ça qui soient défavorisés. Moi aussi j'ai cette haine là, mais on change pas le système en tapant sur les gens. Il y a d'autres manières de le faire. Et le fait qu'aussi que ce soit finalement les premières victimes du truc qu'on retourne contre nous quelque part. Donc si je me suis intégré, c'est peut-être pour mieux contre-attaquer plus tard, quoi. C'est ça le truc. Si je prends le cas des juifs qui tout le temps remettent en cause, enfin remettent sur le tapis, voilà, le nazisme, l'Holocauste, tout ça. Là, je pense qu'il y a une vraie victimisation. Maintenant, étant donné que moi je suis noir et voilà, je vais penser qu'il y a de la victimisation aussi. Peut-être que c'est un point de vue subjectif aussi. Enfin, je veux dire, c'est peut-être que quelque part il y en a pas et que moi j'en vois aussi. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Donc moi, je suis pas certain d'être apte à dire qu'il y en a vraiment. Donc ouais, oui, c'est vrai qu'il y a une petite concurrence là, un petit grand prix de la victimisation, on dirait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que là, la lutte des classes qu'il y a aujourd'hui, c'est plutôt des classes pauvres qui essayent de s'imposer. Et les classes pauvres, c'est vrai que c'est souvent les immigrés. C'est souvent les immigrés, ça on va pas se le cacher. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on va pas nier non plus que les classes aisées, c'est souvent des blancs. Donc voilà. Et c'est pour ça que finalement, quand il y a un choc, et bah tout de suite, ça tourne à la guerre raciale. C'est bon, voilà, c'est dommage. Mais moi, je sais que, par exemple, quand je suis... Alors moi, je suis né ici... Jusqu'à 3 ans, je suis resté ici. Puis à 3 ans, ma mère et mon père ne s'entendaient pas trop. Donc ma mère m'a envoyé en Afrique chez une tante. Pendant que j'y suis resté 3 ans, et je suis revenu ici. Et c'était au Togo. Je suis revenu ici et ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi, ma mère voulait me mettre dans une petite école à côté. Et puis voilà, l'école, le maire a refusé qu'on me mette dans cette école-là. Donc, alors moi, finalement, ma mère a bataillé. Donc pendant un an, elle m'a mis chez une tante ailleurs. Peut-être que oui, c'est peut-être ça aussi. Donc peut-être que j'ai hérité finalement. Ma mère qui milite un petit peu, qui veut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc au bout d'un an, après des sittings toute seule dans la mairie où elle a pas voulu s'en aller, ils ont fini par accepter de me prendre en CE1. Donc dans l'école, c'est vrai que dans l'école on était quoi, 2 noirs, il y avait un métis et je crois qu'il y avait une arabe, c'est tout. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le mot, c'est on ghettoise et c'est ce qui se passe vraiment finalement. On parle de communautarisme, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une bataille rangée qui se prépare, quoi, plutôt qu'autre chose.
La morale de l'histoire ?
La morale de l'histoire, c'est... La morale, elle serait très longue, hein, quand même. Hein. Mais ça serait... faut moins d'inégalités sociales pour éviter ce genre de choses, quoi. Et puis... puis voilà, faut essayer d'arrêter de marginaliser les gens. Et je crois que c'est ça, le truc, hein, parce qu'on peut pas se dire d'un coup, oui, faut faire peace and love, arrêtez de taper les gens, et vous, donnez vos portables gentiment, ou gardez-les, ou je sais pas, négocier. Non, je pense qu'il y a un vrai problème de fond à traiter plutôt qu'autre chose, quoi. Même si on n'a pas étudié cette citation-là en cours, l'homme est vraiment un loup pour l'homme. Je pense qu'on n'a pas plus le grand ennemi que nous-mêmes.
Seul le crime paye, aucun report pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la mollée. Les banques maniées, la scie est pour déplier. Si t'entendais. Seul le crime paye, aucun report pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la mollée. Les banques maniées, la scie est pour déplier. Si t'entendais. Seul le crime,
si t'as pas de fils, trop posampé. Je suis hors la loi, devant elle, je veux pas ramper.
Je m'introduis la nuit quand les gens sont endormis.
Le code de la rue est rude, pas besoin de permis.
Parle plus d'école, je sais que les refrains déconnent. Préfère fumer de l'herbe et emmerder la PRB. Braquer un petit con avec un 3, 5, 7, piton. Puisqu'on est jeune, profitons, piton, gaine. Deviens une poule, un vice roulant. Hey yo yo yo, dis-moi, fils, paraît que tu roules en merco, les narcotiques payent. Gros en cash flow, P2OPH6, un fat flow.
J'ai déterré la hache,
enterré la colombe.
Regarde le bis de hache,
de Boulogne jusqu'à Colombe.
C'est pas les guignols de l'info, hein, c'est un vrai groupe, il s'appelle Lunatique. Et ils font pas vraiment dans la dentelle, ces jeunes gens. On est avec cette journée particulière du 8 mars dernier, du 8 mars 2005, manif de lycéens contre la loi Fillon à Paris, et violence qui débouche sur la dénonciation l'apparition d'un racisme anti-blanc et de ratonnade anti-blanc selon un appel qui a fait grand bruit. Se peut que les signataires aujourd'hui soient reconnaissent qu'ils se sont un petit peu laissés aller. Mais néanmoins, ça reste comme beaucoup de choses aujourd'hui, c'est Internet et l'information a beaucoup circulé, les déclarations ont beaucoup circulé très rapidement sur le net. Et c'est ainsi que Julien Salingue, c'est son nom, qui est étudiant en philosophie, qui a 23 ans, a donné un témoignage en disant on peut pas se contenter d'explications du type c'est un nouveau racisme.
racisme, ou bien c'est la police qui a organisé ça, ou bien c'est normal, ils sont exclus, il faut les comprendre, c'est-à-dire la fameuse excuse sociologique. Alors, quoi d'autre, Julien Salingue?
Dès après la manifestation, je me suis dit c'est important qu'on essaie d'expliquer et d'apporter des explications politiques à ce qui s'est passé, parce que sinon il y en a d'autres qui vont le faire. J'ai mis un peu de temps à écrire, et ce qui m'a fait réagir, c'est l'appel contre les ratonnades anti-blancs signé par Taguieff, Finkielkraut, entre autres. Quand j'ai vu ça, plus le dossier de Marianne sur ce qu'ils appellent la guerre ethnique, plus l'article du Monde sur le racisme anti-blanc, là je me suis dit qu'il fallait plus attendre et qu'il fallait répondre et essayer de donner non seulement une autre version de ce qui s'est passé dans les manifestations, mais aussi donner d'autres explications que celles qui sont données pour l'instant, qui se réduisent à une soit guerre ethnique, soit communautarisation, ce genre de choses qui, à mon avis, sont non seulement limitées, mais en plus dangereuses.
Avant d'analyser ce qui s'est passé ce jour-là, est-ce qu'on peut revenir sur les faits? Qu'est-ce que toi, tu as vu dans cette manifestation?
Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est une manifestation où il y avait plusieurs dizaines de milliers de lycéens, et où à l'arrivée, il y en avait 2000, et où on a dû arrêter la manifestation avant son terme, parce que plus la manifestation est avancée, et plus il y a eu des violences, des vols contre les lycéens, et à la fin ça devenait vraiment ingérable de poursuivre la manifestation, donc on a décidé d'arrêter. Et après, concrètement, moi ce que j'ai vu, l'évolution des événements pendant la manifestation, c'est qu'on n'a pas eu, contrairement à ce qu'on a pu lire à droite à gauche, des centaines et des centaines de jeunes de banlieue qui seraient arrivés à la manifestation dans le seul but de taper et voler, mais qu'il y avait dès le début quelques bandes, quelques groupes bien organisés qui étaient là dans un seul but, c'est se faire du fric en piquant les trucs des lycéens, et que progressivement, de ces quelques dizaines, on est passé à plusieurs centaines, et à la fin, un bon millier qui ne faisait plus partie, entre guillemets, de la manifestation, mais qui s'occupait uniquement de piquer des trucs aux lycéens en les frappant parfois quand ceux-là ils refusaient de leur donner ce qu'ils leur demandaient. Ce qui fait que la manifestation s'est coupée en deux. Et ce qui était frappant, c'est que on avait au centre de sur la route, une manif à 95% avec des lycéens blancs, et que sur les trottoirs, il y avait que des jeunes noirs ou arabes qui faisaient plus partie du cortège en tant que tel. Voilà.
Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir quand on le portable, le MP3, ouais, tout ça, quoi.
Tout le monde, et
ils gâchent tout, ils tapent tout le monde, et c'est vraiment n'importe quoi, quoi.
Ouais, ils m'ont tapé la joue au ventre. Enfin, t'es sur elle ou sur elle, n'importe qui passe en premier, quoi.
J'ai commencé à me prendre, mais j'ai réussi à me dégager, mais...
Et vous les connaissez? C'est des gens qui sont dans vos lycées?
Non, c'est des gens d'autres lycées de...
On sait même pas s'ils sont au lycée, d'ailleurs, hein.
Oui, c'est... Je viens là vraiment pour foutre le bordel et pour s'enrichir, quoi.
Juste avant de revenir alors sur l'interprétation de tout ça, j'aimerais qu'on parle peut-être du rôle de la police et des services d'ordre. Je sais pas, la police a pas agi à ce moment-là pour essayer de séparer les agresseurs des agressés ou
Non, la police n'est pas intervenue. La police protégeait surtout les magasins, notamment les banques, mais n'est pas du tout intervenue à l'intérieur des cortèges ou pour essayer d'isoler les groupes en question. Elle a laissé faire. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des policiers en civil à l'intérieur des cortèges qui regardent ce qui se passe et qui parfois arrêtent des gens. Et ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, ces gens-là étaient là, on les a vus, enfin on les connaît au bout d'un moment, et ils n'ont rien fait.
Est-ce que d'après toi, il y a eu infiltration ou instrumentalisation de ces casseurs, agresseurs par la police?
Moi, je n'ai pas de preuves. Moi, je pense que dans les groupes, une partie des plus âgés dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il y en a qui étaient soit de la police, soit en lien avec la police, parce que les choses étaient trop bien organisées et il y avait trop de... de laisser faire et laisser aller de la part de la police pour qu'il n'y ait pas un minimum de connivence entre eux. On ne peut pas se contenter de dire c'est la police qui a organisé ça, c'est trop facile. Mais c'est évident pour moi que la police a non seulement laissé faire, mais a contribué. Je pense que ça a jamais été on va casser du blanc. C'est pas parce que ils ont pas génétiquement le truc de solidarité parce qu'on est black ou parce qu'on est rebeu. Mais c'est aussi un produit de la marginalisation sociale et de la ghettoisation dont ils sont victimes tous les jours, de l'abandon complet des banlieues depuis 20 ans et où on a l'impression que les seuls qui ont vraiment les mêmes intérêts que nous, c'est ceux qui sont de la même couleur. Donc du coup, ça génère aussi un sentiment d'appartenance à une communauté plus opprimée que les autres, et c'est pas faux. Du coup, il n'y a pas de raison que ça se retranscrive pas aussi dans des moments comme la manifestation du 8 mars. Ouais, moi je dis revanche sociale dévoyée parce que ça s'attaque aux lycéens blancs entre guillemets, parce qu'il symbolise, il incarne ce que le jeune de banlieue noir ou arabe pourra jamais être. Mais je dis c'est préventif parce que c'est pas en tant que lycéen qui se fait taper. C'est parce que dans l'imaginaire, malheureusement, c'est lié à des faits qui sont bien réels. Les petits blancs entre guillemets du centre de Paris sont les futurs ministres, patrons, qui continueront d'en foutre plein la gueule aux jeunes de banlieue. Donc ce qu'il incarne, le lycéen blanc, ça le dépasse complètement.
Manifestation des lycéens le 8 mars dernier et les conséquences qu'on évoque, qu'on essaye d'analyser à partir effectivement d'éléments discutables, évidemment. Donc, on en discute. On en discute avec des jeunes, comme on dit, rencontrés dans le 9-3, évidemment, et ils auraient pu, mais ils se sont heureusement retenus. C'est bien.
On a dit qu'il y avait
une fructuse.
Avance-toi,
Taïs. Tu me prends pas.
Attends, je vais contrer.
Non, c'est quoi derrière.
Mais oui, s'ouvre ton pantalon, c'est...
Je suis d'origine algérienne.
Moi, je suis d'origine turco-algérienne.
Origine algérienne.
Est-ce que je sais pas, vous avez peut-être pas piqué de portable, mais est-ce que vous y avez pensé à un moment ou pas?
Moi, je veux pas parler parce que c'est pas très bien. Non, c'est pas ça en fait. C'est vrai que comment dire. C'est vrai que des fois, il y a des occasions, on a envie, mais non, on se retient, on se dit non, on est venu pour manifester, on n'est pas venu pour ça et tout.
Tout le monde s'est retenu?
Non, pas tout le monde, ils sont lâchés. Mais la plupart, pourtant que j'y sous-bois, eux, ils sont forts, mais ils sont très très bien retenus. Hein.
Ils se voient même enfermés et tout, quand il y en a, ils disent une parole, ils reviennent pas dessus. Et même, je vous dis franchement, il y avait des occasions super faciles. C'est pas pour se la raconter ou quelque chose comme ça. On aurait pu voler, si on aurait voulu, très franchement, on aurait pu le faire facilement.
On aurait pu le faire. Moi, franchement, question pickpocket, je suis trop fort. Mais j'aurais pu le faire pickpocket, ça fait de mal à personne. Ça. Juste, mais non, je l'ai pas fait. Je me suis retenu, je dis non, je suis venu pour la manie, je suis pas venu pour dépouiller ou quoi que ce soit. Bah, leur objectif, comme objectif de tout casseur, comme on va dire entre parenthèses, c'est de prendre des choses à des gens pour les revendre et se faire de l'argent. De l'argent facile.
Des proies faciles en quelque sorte.
Et vous avez entendu quelque chose quand il y a eu des attaques?
Il a des couilles là. Ça doit être ça, obligé.
Ouais.
Maintenant qu'on est venu sur République, comme c'était sûrement des personnes qui venaient des banlieues. Maintenant qu'on est là, autant se faire plaisir, autant ramasser du billet. notre butin, comme on est venu vide, il faut pas qu'on reparte chez nous vide, les mains vides. Il faut qu'on reparte au moins avec un petit truc, un petit téléphone, avec quelque chose comme quoi on a pris.
Bah, eux, c'est des gens qu'ils ont jamais assisté aux manifs, qui, quand on va leur dire, ouais, il y a une manifestation, ils disent, on s'en fout, on rentre chez nous. Ils vont ni en cours, ni à la manif, ils restent chez eux. Ils savent même pas c'est quoi la réforme Fillon, ils savent rien. Eux, c'est juste pour s'amuser un peu. Pour eux, c'est un jeu de prendre le portable à quelqu'un. Ou ils disent, ouais, celui-là, il a plus d'argent que nous, il faut qu'on lui prend son truc. C'est ça qui est faux.
On a dit qu'il y avait du racisme anti-blanc dans cette manif. C'est-à-dire que les mecs qui cassaient, c'était des actes racistes, mais contre les blancs. C'est comme ça que vous l'avez perçu ?
Il y a eu des casseurs
Non, parce qu'il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes filles arabes, il y avait quelques noirs, ils sont fait prendre leur truc aussi. Donc, en fait, les casseurs regardaient pas la couleur ou on va dire la gueule des gens. Ils avaient pas un œil raciste, ils avaient un œil matérialiste. Voilà, ils veulent prendre ce qu'ils ont. Ah, quel magnifique. Je pense que ça attaquait pas aux gens pour leur couleur ou pour quoi que ce soit, mais ça attaquait eux pour leur butin, pour ce qu'ils avaient en fait.
Voilà.
En fait, en gros, c'était les lycées de classés bourgeois en quelque sorte. Ouais. C'était ceux de Paris 16e, les grands lycées et les lycées de banlieue. En fait, ils nous ont pas fait confiance. Ils croyaient que nous on était venus, que ça, il y avait quelques personnes qui avaient dépouillé des gens, etc. Ils croyaient que tout le monde, ils nous avaient tous mis dans le même sac. Alors que nous on était partis avec l'idée de manifester et on manifestait.
Vous pensez que parce qu'on est blanc aujourd'hui en France, on est privilégié, français comme tu dis ?
Non.
Franchement, moi je vous dis la vérité, je le pense.
De quoi ? Parce qu'on est blanc quoi ?
Parce qu'on est blanc, t'as plus de facilité. Franchement, oui. Même pas sur Paris, même pas sur Paris.
Franchement, non ? Non, ça veut rien dire.
Moi je le pense.
Il y a blanc et il y a blanc aussi.
En général, dis la vérité, t'es pas réputé. En boîte, tu te rappelles pas quand on se faisait recaler ? Il voyait un arabe, ouais, soirée privée.
Ouais, mais un arabe, c'est un blanc aussi.
Blanche, race blanche.
Qu'est-ce que vous appelez race blanche ?
Gaulois.
Un gaulois ?
Ouais.
Pas un bronzé. Ah, ouais. Non, mais ils sont privilégiés, ouais.
Quand il va au supermarché, c'est visité par le vigile. Quand il va en boîte, il n'y a pas de problème, il peut rentrer avec ses copains.
C'est pas une démagogie ou quelque chose comme ça. Comme on dit l'antisémitisme. Ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai, il y en a, l'antisémitisme envers les juifs, etc. Il y en a, mais faut pas dire aussi que du côté des Arabes, il n'y a personne qui se fait recaler, nous, tout va bien et tout. Alors que pour le travail, les choses comme ça, c'est entre juifs et arabes, ceux qui sont plus, ceux qui sont favorisés, c'est plus les juifs que les Arabes.
Parce que normalement, on est déjà intégrés. Mais ils font en sorte que, comme on venait d'ailleurs, pourtant on est français, on est né en France, et on a grandi en France, on est à l'école en France, ils font comme si on vient d'arriver, comme si on était des étrangers, on n'a rien à voir avec la France, on vient, on veut s'incruster. Non, on est né en France, on est des papiers français, pas tous, mais, mais bon, voilà.
Il y aurait comme une certaine fracture quand on écoute ces propos de ces jeunes du 9-3, une fracture entre la façon dont certains médias, certains intellectuels médiatiques interprètent les choses et puis ce qui peut se dire dans cette France d'en bas. On a dit dramatiser, minimiser, manipuler, ça semble vraiment être un cas tout à fait exemplaire de ce genre de choses que ce 8 mars dernier. Alors que s'est-il vraiment passé ? Parce que tout ça, c'est parti d'un reportage dans Le Monde, de témoignages faits à chaud du jour au lendemain, et c'était tout cet échafaudage qui est parti d'une base quand même évidemment fragile et fugace. Que s'est-il vraiment passé ? C'est ce que se sont posés la question que se sont posées un certain nombre de personnes, dont le magistrat Didier Perra, le sénateur socialiste David Assouline, et qui ont lancé une pétition, la pétition du 8 mars. Que s'est-il passé ? Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont guère de suite à leurs questions angoissées. C'est au moins ce que nous dit Frédéric Goldbraun, qui est dont le fils était dans la manif du 8 mars.
Vous êtes Frédéric Goldbraun, vous avez écrit notamment une contribution dans Le Monde il y a bientôt un mois et demi, c'est ça ? Votre fils Tristan était à la manifestation du 8 mars, il avait été parmi les lycéens agressés et vous, vous aviez tenu à réagir là-dessus. Dans cette contribution, vous parliez notamment d'un nouveau lumpen prolétariat, probablement pour qualifier ces casseurs, ces cogneurs, ces agresseurs. Est-ce que vous maintenez un peu ces positions, ces tentatives d'éclairage de ce qui s'est passé ?
Non, je maintiens complètement. Je suis persuadé que je pense pas qu'il y ait eu de complot. Hein. Je pense pas que ces jeunes venus des banlieues aient été payés, comme certains le disent, et manipulés au sens envoyés spécialement pour cogner et disperser les manifestants. Mais je pense que par contre, la police a laissé faire et que, enfin, le gouvernement a laissé faire dans le but de pourrir la manifestation et de provoquer sa dispersion et d'instaurer un climat de peur parmi les lycéens. Climat de peur qui a d'ailleurs très bien fonctionné puisque les moins décidés ont renoncé purement et simplement à manifester et les plus décidés ont été contraints de se replier sur les lycées et d'utiliser d'autres formes de lutte qui étaient plus minoritaires. Et maintenant, on voit bien que la police qui n'a absolument rien fait pour protéger les manifestants le 8 mars, a utilisé la violence de façon répétée contre les lycéens qui continuaient à lutter. Et même, on est rentré dans un processus de criminalisation de la jeunesse lycéenne qui continue à se battre contre la loi Fillon.
Dernière question, à la suite de cette manifestation, il y a eu de nombreux appels qui ont été écrits, de nombreuses contributions, notamment l'appel motivé par la chômère Azaïr, une association juive de gauche. Est-ce que vous vous sentiez représenté, en tout cas par les propos de cet appel ?
Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, dans l'article que nous avons écrit dans Le Monde, nous dénoncions cet appel comme une tentative de récupération communautariste. La question, c'est pas d'opposer une forme de racisme à une autre, mais de combattre les racismes de façon globale et de combattre la politique de ségrégation sociale qui provoque ces racismes des blancs contre les noirs et le racisme inversé que peuvent reproduire certains jeunes exclus.
Qui a intérêt aujourd'hui à récupérer cette manifestation ?
De toute façon, cette tentative de division de pourrissement du mouvement social, évidemment, ne peut qu'intéresser le gouvernement et l'ordre libéral.
Alors dans tout ça, on a quand même oublié quelque chose, c'est quel était le but de ces manifestations lycéennes ce jour-là. 160 000, 170 000 lycéens sont descendus dans les rues, dans les villes de France. Mais que voulaient-ils ? On va voir comment ces violences et la polémique autour de ces violences a complètement occulté l'intention et le but de ces manif. Heureusement, dans la manif, justement, une lycéenne rappelle le but de la manœuvre.
Contre la loi, et elle est déjà passée à l'Assemblée, donc il faut l'empêcher de passer au Sénat. Et parce que j'estime que la France, la richesse d'un pays et d'un homme, c'est son savoir et sa culture, et on ne l'obtient pas avec des restrictions budgétaires, mais en donnant plus de moyens à l'éducation. Il y a surtout qui n'augmente pas les moyens et le personnel et la suppression des TPE qui a apporté des points facultatifs aux élèves et ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'il veut faire. J'ai lu les textes, vous voyez, je les ai, et il veut redonner une éducation à la nation ou je sais pas quoi, il a des bons mots, mais ce qu'il a pas compris, c'est que c'est pas en enlevant des postes, c'est en enlevant des moyens, des options de une richesse de l'éducation qu'on va y arriver. Il faut donner plus de moyens à l'éducation pour refaire un budget digne de ce nom, parce que quand on met des milliers d'argent à l'armement,
voilà, merci à tous. On aura des conclusions, une suite à cette enquête. demain avec d'autres intervenants qui essaieront, comme nous avons essayé de le faire, comme Olivia Gesbert a essayé de le faire dans cette enquête, de prendre un peu de recul et remettre le texte dans le contexte. C'est ce que nous avons essayé. Merci à tous. Toutes les informations sur cette émission sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Olivier Ruyotor. L'équipe de Là-bas, si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Le mail, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Dans quelques poignées de secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau et son charivari. Et nous, on se retrouve demain à 17h pour la basse. J'y suis. Salut.